RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Hélène Pilichowski. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Marco.
Avec le psychanalyste Gérard Miller, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Jean-Luc Manot, conseiller en communication, bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Et avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Youfol, bonsoir Yvan.
Bonsoir.
La colère est donc dans le pré. La FNSEA a donc rencontré aujourd'hui François Hollande et Stéphane Le Foll à l'Élysée pour réclamer un accompagnement de l'État rapide et efficace. Pendant ce temps-là, de nombreux paysans occupent toujours le terrain un peu partout en France. Vous avez entendu tout à l'heure, donc à Saint-Lô, ça a dégénéré. Le président de la République a promis de s'exprimer avant le salon de l'agriculture à la fin du mois. Alors, comment sortir de cette crise? Est-ce qu'il faut d'ailleurs sacrifier le ministre, même si ce n'est pas le principal dans le sujet, mais peut-être que c'est l'un des sujets aussi. Sur les réseaux sociaux, Benoît?
On y trouve des réponses très différentes. Pour les uns, c'est la FNSEA qui empire la situation. Ces richissimes hommes d'affaires déguisés en pauvres paysans, comme dit André. Les dégâts provoqués par les éleveurs bretons, estimés à 4 millions d'euros, ça suffit. Xavier Belin s'énerve aussi pêcheux. Pour Robert, la faute au gouvernement, qui en se brouillant avec Poutine, n'a pas calculé les sanctions sur les paysans français. Et les Russes profitent de cette crise pour relancer leur agriculture. Pour Chabru, le gouvernement est un problème. En effet, Stéphane Le Foll n'y connaît rien et Hollande ne bougera pas si ça lui rapporte pas de voix, écrit-il. Il pourrait quand même lâcher quelques millions pour les faire patienter jusqu'en 2017, propose Vox. Mais pour certains, ce sont justement les aides le problème. Delmar Rail, ces agriculteurs pleurnicheurs qui savent pas vivre sans subventions payées par le contribuable. Pour Tonton, si on consommait français, déjà, la crise serait moindre. À ce sujet, d'ailleurs, David en appelle à la responsabilité des grandes surfaces. Oui, c'est l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qu'il faut vraiment contrôler. Mais il faut du courage politique, confirme Patrick. Et leur matériel agricole, à eux, il est français. Ras-le-bol de payer pour ces ingrats qui remboursent leur casse, tacle Blaireau. Thierry s'inquiète, au contraire, ils sont pris dans l'engrenage de course au volume et aussi de l'agrandissement des surfaces. Qui peuvent les agriculteurs? Rien, Le Foll non plus n'y peut rien. Que les agriculteurs reposent en paix, répond froidement Marc. Béni, plus optimiste, conclut qu'ils peuvent déjà revenir à des exploitations raisonnables, privilégier les circuits courts et ne plus suivre cette FNSEA.
On va commencer par celui qui, a priori, connaît mieux le sujet, Gérard Miller, puisque vous êtes paysan.
J'ai été paysan ouvrier agricole quand j'étais jeune, et là, j'ai la chance en Ardèche d'avoir une maison, et notamment, il y a un fermier, un jeune homme d'une trentaine d'années qui fait le lait, les veaux et les vaches, avec qui donc je parle très souvent, et qui m'a expliqué la situation. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour que les gens comprennent bien. Actuellement, le litre de lait, il est à 30 centimes, acheté au producteur, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il était par exemple à 35 centimes il y a un an, il est monté jusqu'à 40-42 centimes. Le prix du lait est fixé de façon totalement arbitraire, c'est-à-dire que les paysans n'ont aucun moyen, ils reçoivent une lettre. Il se trouve que ce paysan travaille avec Danone, il reçoit une lettre chaque mois, on lui dit voilà, on vous paye tant, point final. L'État n'y est pour rien, s'en désengage. Je prends un deuxième exemple.
Enfin, s'en désengage, Stéphane Le Foll a expliqué qu'il ne pouvait rien faire, voilà, surtout. Il peut pas, s'en désengage,
il n'a pas d'autre possibilité que de s'en désengager. L'État était plus engagé. Et je me permets de donner ces chiffres et ces données pour savoir, chez les libéraux qui sont autour de la table, qu'est-ce qu'ils pensent justement du désengagement de l'État. Prenez le cas du veau. Il y a eu effectivement, vous le savez, une maladie. Le veau que vend ce jeune agriculteur, il le vendait 250 euros. Il y a encore très peu de temps. Aujourd'hui, vous savez combien il le vend? 50 euros. Quand il arrive à le vendre, 50 euros, et il ne le vend quasiment plus. Enfin, le marché vient de réouvrir puisque la frontière avec l'Espagne s'est réouverte pour le veau. Donc, vous imaginez, d'un seul coup, on vous dit, le veau que vous vendiez 250 euros, vous le vendez 50 euros. Et qu'est-ce qui se passe sur le marché de la viande? Il y a une concentration incroyable. Actuellement, Bigard, pour le citer, et malheureusement lui faire de la publicité, a racheté quasiment tous les autres, Charal et compagnie. Donc, il y a un grand propriétaire, un grand possédant qui fixe le prix exactement comme le prix du lait fixé par la grande distribution. Donc quand on demande quelle solution, la solution c'est entre autres que l'État se réengage un tout petit peu dans ces mesures-là.
Mais comment ?
Alors comment ? Écoutez, à un moment donné, il y avait des commissions, même il n'y a pas si longtemps, où l'État était encore présent, on pouvait encore un tout petit peu influer sur la grande distribution et sur des concentrations incroyables. Vous avez tous lutté ici contre le communisme à juste titre parce qu'il y avait des concentrations incroyables. Aujourd'hui, vous vous trouvez avec un système capitaliste qui aboutit exactement au système soviétique, c'est-à-dire que tous les prix sont décidés par extrêmement peu de gens de façon totalement arbitraire.
Oui, mais sauf Hélène. Est-ce que l'État français peut s'engager dans un secteur qui est du ressort de l'Europe?
C'est ça le problème. C'est que j'ai vraiment le sentiment que ces agriculteurs, qui suscitent beaucoup d'empathie de notre part, quand on vit à Paris et qu'on entend leurs témoignages, on ne peut que souffrir au sens vraiment étymologique du terme avec eux. C'est-à-dire quand ils vous racontent qu'ils ont moins 4000 euros par mois, qu'ils perdent tous les jours de l'argent.
Moins 4000 euros, je n'en connais pas. Ce jeune homme, je suis sûr qu'il gagne.
Oui, mais je connais qu'il disait je perds 4000 euros.
Ah, d'accord, qu'il perd. Oui, parce qu'il faut dire que les gens, en général, gagnent moins que le.
Non, non, mais c'est ce qu'on a entendu de la part d'Hélène.
Voilà, il perd 4000 euros par. Il y en a un qui disait je perds en ce moment 4000 euros par mois avec mon exploitation. Effectivement, on ouvre des yeux, on écarquille les yeux, on se dit qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Mais je pense qu'ils sont victimes de deux choses. Ils sont au confluent de deux difficultés. L'État français qui peut-être s'est désengagé, mais pourquoi ? Parce que l'Europe a pris le pas sur le domaine agricole, puisque c'est la PAC qui régit l'agriculture en France, qui donne, qui octroie les subventions. Donc qu'est-ce que vous voulez que fasse l'État ? Et en même temps, il y a toujours le modèle social français qui est coûteux et auquel ils contribuent, parce qu'ils vous disent tous qu'ils ont des charges terribles, ils payent très cher et ils n'en profitent absolument pas, parce que le modèle social, il sert pour avoir des congés, pour avoir certains avantages, mais eux n'en ont pas. Ils quittent jamais leur exploitation. Donc, ils ont une situation extrêmement difficile. Et quand j'ai écouté Stéphane Le Foll dimanche matin à l'émission...
C'est pas bien, parce que c'était pas
c'était
ici.
Pas, c'était chez votre confrère préféré, voilà. J'ai pas eu l'impression qu'il avait des solutions, à part de dire que peut-être que les banques devraient peut-être faire quelque chose. Mais leur accorder des facilités bancaires, c'est pas améliorer leur compte d'exploitation.
Ouais. Jean-Luc, sur l'Europe pointée du doigt par Hélène, vous aviez l'air un peu sceptique.
Non, c'est pas sur l'Europe. On connaît tous des agriculteurs, j'en ai à côté de chez moi, qui font aussi du lait, qui sont dans une situation absolument impossible. C'est-à-dire que le moment où on vend ces produits moins chers que le prix de revient de la production est évidemment inacceptable sur le plan financier, et c'est une violence qui est faite à l'honneur du métier, du travail. Ils ajoutent que les normes qui s'accumulent sont extrêmement difficiles, que les frais engagés pour être dans les normes, qui sont des normes européennes la plupart du temps, rendent les choses très difficiles. Moi, ce que je remarque avec un peu d'espoir d'ailleurs, c'est que les revendications du monde paysan, du monde agricole ont changé. C'est-à-dire qu'on avait, il y a 10 ans, des demandes d'aide, de subventions, de mesures d'urgence, d'argent, en clair, pour venir au secours. Mmh. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dignité dans la revendication agricole. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui disent « nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons un système qui soit rémunérateur pour notre travail ». Et là, on est dans quelque chose qui a beaucoup évolué. Deuxième remarque que je veux faire, c'est que il n'y a pas les agriculteurs. Ça n'existe pas, ça. Il y a des situations avec des agriculteurs qui ont des situations extrêmement différentes. Il y a des agriculteurs qui ont des très grandes propriétés, qui sont des producteurs. On prend toujours l'idée des producteurs de céréales, Beauceron. C'est sans doute injuste parce que c'est pas les seuls, mais enfin, qui eux sont dans des dimensions et dans des structures qui leur permettent de survivre. Il y a une petite agriculture. La question qui est posée, c'est qu'il faut avoir le courage à un moment donné de se poser la question et de savoir, et c'est sans doute ça le rôle aussi du gouvernement, de tous les gouvernements, parce qu'ils n'ont pas été meilleurs les uns que les autres, et de l'État, c'est de dire quel est le modèle agricole que nous voulons pour ce pays. Est-ce que nous voulons continuer à avoir un système de petites et de moyennes exploitations, ou est-ce que nous voulons seulement des grandes ? Ça répond à la question, est-ce qu'on peut... Pourquoi en Allemagne, il y a une agriculture qui n'est pas dans les mêmes difficultés ? Pourquoi en France, nous avons une...
Parce qu'elles sont beaucoup plus grandes en Allemagne.
Oui, naturellement. Mmh. C'est un les agriculteurs allemands qui font du lait, par exemple, ils ont 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de têtes que nous n'avons en France. Mais c'est un modèle, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut toujours avoir des petites exploitations ou pas ?
Yvan Huffol ?
Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pense en effet que les agriculteurs sont d'authentiques victimes. Ils sont d'authentiques victimes d'un système européen, en effet, qui marche sur la tête. Et une partie de la solution se trouve, en effet, en Europe et échappe par définition au ministre de l'Agriculture, mais les agriculteurs sont victimes également, si je puis dire, d'une sorte de mépris qui a été porté sur eux pour ce qu'ils représentaient. Ils sont l'ADN de ce que nous sommes. Nous avons tous eu un ancêtre paysan. Or, ce mépris, je n'enlèverai pas de l'idée que ce mépris qu'il y a eu, qu'il y a encore un peu aujourd'hui, pour les racines, la ruralité, les traditions, a été aussi un mépris qui a été... pour les agriculteurs eux-mêmes. Quand vous savez qu'il y a eu 100 milliards d'euros qui ont été déversés sur les banlieues dans le cadre de la politique de la ville qui a été ouverte, cette politique depuis à peu près 20 ans, combien de millions ont simplement été...
Ah bah, les agriculteurs ont quand même eu la moitié des ressources de, la, de l'Europe.
Certainement la PAC pas 100 faisait, milliards. Et en plus, ce système de subvention est en effet faussé. Donc, je pense que les solutions, elles reviennent d'abord...
Le problème des agriculteurs, c'est la faute des banlieues, un peu, d'une certaine manière. On a trop donné aux banlieues au détriment des agriculteurs.
Je pense qu'il y a eu un déséquilibre des politiques, une politique qui a été exclusivement sur la ville, qui n'a pas été suffisamment
Jacques
sur
Chirac
la ruralité. En effet, je le pense. Et je pense qu'il y a une empathie aujourd'hui, si l'on veut sortir de ce système, une empathie à réaffirmer. D'ailleurs, ça se fait, parce que les Français se sentent tout à fait solidaires des agriculteurs, même quand ils bloquent les routes dans des départs en vacances. Et donc, il faut se rendre compte qu'il faut aujourd'hui sauver cette agriculture, parce que sauver cette agriculture, c'est sauver l'ADN de ce que nous sommes, l'ADN de la France. Ouais. Et puis, il y a des solutions plus ponctuelles, peut-être en effet de leur soustraire quelques charges qui sont trop importantes. Lever cet embargo russe qui les empêche d'accéder
au marché. On va pouvoir développer ça dans un
autre. Dans la série des autocritiques, les agriculteurs eux-mêmes pourraient quand même en faire une, parce que ça fait quand même des décennies qu'ils votent à droite. On ne peut pas dire que ça leur a formidablement réussi, si vous me permettez cette petite remarque.
On y revient dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
On refait le monde à 19h31 sur RTL avec Gérard Miller, Yvan Rioufol, Hélène Pilichowski et Jean-Luc Manot. Donc on parle encore un peu des agriculteurs avant de partir aux États-Unis et parler donc de la primaire hier dans l'Iowa. Vous disiez, Gérard Miller, que la droite n'avait pas été très reconnaissante avec les agriculteurs qui ont toujours voté pour eux. Mais aujourd'hui, est-ce que la gauche, est-ce que Stéphane Le Foll est à la hauteur des enjeux ?
Alors, moi, je ne le pense pas, mais comme je ne pense plus que c'est la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui... Je serais mal placé pour dire qu'il y a une vraie différence entre les deux. Non, je crois qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et surtout, on a pris l'habitude, effectivement, d'avoir des circuits de plus en plus complexes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne comprend plus qui fixe les prix. On sait grosso modo que c'est la grande distribution pour le lait. On sait grosso modo que c'est des entreprises comme Bigard pour la viande. Mais c'est ça qui est très frappant, c'est que les gens reçoivent quasiment l'information sans savoir vraiment, devant qui manifester.
Enfin, Stéphane Le Foll avait essayé de les fixer, les prix, l'été dernier, Jean-Luc Manot.
Oui, il y avait une tentative qui a été un peu, comment dire, burlesque, voire ridicule, parce que on voit mal comment un gouvernement peut dire il n'avait pas fixé le prix du porc. Mais il y avait un conseil des ministres surréaliste où on avait discuté de savoir quel était le bon prix. Et le gouvernement de la République avait dit c'est 1,40. Bon, sans aucun moyen de le faire appliquer. Bon, deux choses. Un, je trouve
c'est
que
pas c'est... complètement idiot de dire qu'il y a pour les choses un juste prix. Pour le sans lait, doute, par exemple, il y a un juste prix qui doute, n'est pas de 30
sans,
centimes.
Sans doute, naturellement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le Conseil des ministres qui puisse en délibérer. La deuxième...
Gérard aimerait bien, d'une certaine manière.
Oui, moi j'aimerais que l'État reprenne un certain nombre de prérogatives.
De la vraie gauche, et d'ailleurs...
À condition d'être de gauche.
Et d'ailleurs, dans tous les systèmes et tous les pays où le Conseil des ministres fixe les prix, on voit bien que ça a formidablement fonctionné. Mais, pour venir sans polémique, parce que je ne crois pas qu'il y ait des différences énormes entre ce que fait un gouvernement de droite et ce que fait un gouvernement de gauche, qu'il soit réellement de gauche ou réellement de droite, sur les questions de l'agriculture. Parce que c'est un problème qui est un problème structurel. C'est pas savoir s'ils sont bons, mauvais, juste ou pas juste. La question, elle est la dimension de nos exploitations, elle est la recherche de qualité, quand même, quand des gens font... Si vous avez un paysan qui fait de la qualité et qui fait des circuits courts... Les témoignages qu'on entend sont que ça marche plutôt pas mal. Donc il y a sans doute quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre structure. Oui. Pour répondre tout à l'heure, simplement, Yvan disait, moi je me méfie de la compétition victimaire. C'est-à-dire, vous savez, quand Macron dit les patrons sont plus en danger que les employés, et là quand on dit c'est plutôt on a donné trop aux banlieues parce que on n'a pas donné aux autres. D'abord, je crois pas que ça puisse se discuter comme ça. Donc il y a des victimes. Il y a des victimes globalement, elles sont victimes d'un système qui ne fonctionne pas.
Vous voyez bien qu'il y a des victimes qui intéressent moins que d'autres. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un SOS agriculture comme il y a un SOS racisme, par exemple. Mais bon, je ne vais pas aller là-dessus. En effet, c'est inutilement polémique. Moi, je suis d'accord avec vous de dire, mais je ne suis pas un spécialiste à ce point, de dire qu'il faut repenser, en effet, la structure agricole qui me paraît être beaucoup trop dépendante de marchés extérieurs et de revenir à des circuits courts, à des circuits peut-être beaucoup plus... compréhensible, ne serait-ce que dans les mécanismes économiques,
un circuit plus écologique et surtout se souvenir qu'il y a des agriculteurs qui s'en sortent et peut-être aller voir auprès d'eux comment ils font pour s'en sortir.
Bah, il faudrait
et donc
se
j'imagine qu'il y a quand même des solutions et que ces solutions,
oui, mais
il faut
parce qu'il faudrait se rappeler ce qu'on disait au début.
Hélène, pour conclure sur le sujet.
Il y a juste des disparités de situation. Voilà. Il y a des grandes exploitations et c'est à celles-là que devrait être dévolue par exemple la production du lait parce que c'est un marché qui est presque international. Malheureusement, on peut se dire mais c'est pas possible, comment on boit du lait étranger en France? C'est comme ça. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Et puis que des petites exploitations qui sont tout à fait se maintiennent elles dans la production de qualité, de produits spécifiques, de produits
mais ce
du
qui
terroir,
est à éviter
de produits
pour cette profession,
estampillés Bretagne, sud de la France. Mais voilà, c'est-à-dire que là, on a l'impression que la réorganisation en France ne s'est pas faite. Alors que la mondialisation l'aurait exigé.
Nous tombons dans la fonctionnarisation, dans une sorte de nationalisation de l'agriculture, ce qui n'est pas du tout évidemment ce qu'est l'agriculture. Donc il faudrait sortir tout de suite de ce piège-là.
Allez, à suivre, direction les États-Unis, donc avec la course à la Maison Blanche qui a démarré.